Bonjour à tous, nous sommes sur Radio Ado. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie des ES3 Romans et de Monsieur Gaudin. Bienvenue à Monsieur Gaudin. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez vous présenter?
Alors, je m'appelle Jérôme Gaudin, j'ai 33 ans, 38 ans, je me rajeunis. Je suis psychologue et mon autre particularité, c'est d'être infirme moteur cérébral. C'est une forme de handicap physique et en fait, je suis dans une chaise roulante, puis j'ai des problèmes de coordination. Après, pourquoi l'origine de mon handicap, c'est que je suis né prématurément à 6 mois. Voilà, en quelques mots, rapidement.
Je te jure, oui, c'est lui. Mais non, je te jure que c'est lui. Je l'ai vu la dernière fois à la télé, c'est lui. Mais non.
Bonjour, il faut être prêt dans 3 minutes, s'il vous plaît.
Bientôt le stress.
Ouais, c'est ce qu'on peut dire.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Action.
Avez-vous eu beaucoup de copains à l'école?
Alors écoute, j'en ai pas mal eu. Moi, j'ai l'impression d'avoir été à ce niveau-là. Un élève comme un autre, donc j'étais avec des élèves dits normaux entre guillemets parce que j'ai fréquenté des écoles privées, puis après j'ai été à l'université et je dois dire que j'ai pas remarqué que j'avais plus de difficultés d'autres. Je crois que c'est beaucoup notre manière d'être qui facilite notre rapport aux autres et notre capacité à accepter les questions des autres, parce qu'ils ont le droit de se poser des questions quand ils voient quelqu'un qui ne leur ressemble pas et de pas forcément se dire qu'ils nous jugent.
Comment vous fonctionnez à l'école?
Alors écoute, il y a eu plusieurs époques en fait. Parce que j'ai évolué avec la technologie. J'ai d'abord fonctionné. Donc j'ai jamais pu écrire vraiment manuellement pour que tout le monde comprenne. Et j'ai d'abord fonctionné à une certaine époque avec des lettres que je mettais mot à mot, donc ça c'est à l'époque de l'école enfantine. Puis ensuite j'ai eu une machine à écrire, une machine à écrire Olivetti. Je sais pas si on a le droit de citer une marque comme en France, on n'a plus le droit, alors j'en sais rien. Mais enfin bon, et puis... On écrivait une ligne électroniquement, puis ça faisait comme une sorte de mitraillette chaque fois. C'était assez rigolo. Puis après, j'ai fonctionné avec les premiers ordinateurs portables. Et petit à petit aussi, j'ai dû faire des demandes d'aménagement pour passer mon baccalauréat, puis passer mes examens à l'Uni. On aménage un peu spécialement les examens en fonction des difficultés qu'on rencontre. Mais je dirais que c'est encore pas trop mal passé, si ce n'est peut-être ça, je vous avais pas raconté quand on s'était vu précédemment. À l'Uni, quand je suis arrivé en droit, il n'y avait rien du tout, alors j'ai dû faire de la demande pour tout, pour l'utilisation de l'ordinateur, pour une heure supplémentaire, pour pouvoir parfois utiliser un certain matériel. Chaque fois, il fallait que j'écrive des lettres. Ça a été l'époque, je pense, pour demander des adaptations qui a été la plus difficile.
Comment les gens vous regardent-ils? Est-ce qu'ils vous regardaient de travers?
Ah, le fameux regard des autres. Alors que je vais répondre à la question en deux temps. Dans un premier temps, je vais te dire que le regard des autres, tu le ressens si tu y penses. Moi, à force de vivre ma vie sans m'occuper trop justement du regard des autres, bah, à moins que l'autre me regarde vraiment avec insistance et puis avec peut-être un regard méchant ou bête, s'il n'insiste pas, moi je le remarque même pas parce que je vis ma vie et après je m'occupe du regard des autres, j'ai envie de dire ça déjà. Donc c'est vrai que plus on fait attention à ce, puis vous avez un peu l'âge là, on se préoccupe, est-ce que l'autre me regarde, qu'est-ce qu'il pense de moi, est-ce qu'il me trouve moche, belle, intelligente, hein, ça compte pour vous, c'est, mais je crois qu'il faut laisser tomber, quoi. Il y a des gens qui valent la peine, il y a des gens qui ne le valent pas. Donc, ça, c'est la première chose. Puis, deuxième chose aussi qu'il faut jamais oublier, c'est que on a tous un regard. On juge tous des autres. Vous voyez, moi, je suis considéré par pas mal de personnes comme un spécialiste du handicap. Parce que je donne des conférences autour du handicap, j'explique qu'est-ce que c'est que le handicap, puis je suis supposé dire, vous voyez, faut lutter contre les stéréotypes du handicap. Puis c'était un été, du côté de pas loin de Gland, la plage de Promontou, et cet été-là, il y avait une magnifique jeune fille, je me souviens de cette magnifique jeune fille parce qu'elle portait un bikini rouge. Ah, le beau bikini rouge. Et puis elle était accompagnée d'un jeune homme qui avait dû avoir un accident au niveau du cerveau, ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral, puis qui prenait un tintébin, c'est un instrument qu'on pousse avec des roulettes qui nous permet de nous déplacer. Puis elle était allée avec lui en direction des toilettes, puis pendant qu'il faisait ses affaires aux toilettes, elle restait devant la porte. Puis moi, je me suis dit, ah oh bah dis donc, la petite sœur, qu'est-ce qu'elle est courageuse de s'occuper de son frère et puis de penser de pas profiter, de faire la fête avec des copines, machin, machin. Et voilà qui pas que le jeune homme et la jeune fille se mettent dans l'herbe et commencent à se faire un baiser fougueux avec tout ce que vous imaginez, trois petits bips, trois petits X, on est à la radio. Enfin voilà quoi. Donc moi qui suis supposé être le spécialiste, je me suis même pas imaginé 2 secondes que ça pouvait être sa petite amie. Donc vous voyez, on a tous des préjugés dans la tête. Qu'on soit handicapé, en difficulté scolaire, on n'est pas meilleur que les autres, quoi. On a des préjugés. Comme j'ai dit à un de vos camarades une fois, si vous mettez 10 blancs et un noir, quel est votre premier réflexe? Vous tournez la tête et vous regardez la personne qui est noire, simplement parce qu'elle est au milieu de 10 blancs. C'est pas parce que vous pensez, parce que vous êtes raciste ou parce que vous pensez que cette personne-là, elle vient voler le pain des Suisses. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il y a 10 blancs et un noir, votre premier réflexe naturel, c'est de tourner la tête. Donc, attention au fait de croire que les autres nous jugent systématiquement. Et ne pas oublier que nous-mêmes nous jugeons. Voilà.
Voici la chanson de Michael Tello.
Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Sábado na balada, a galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai.
Ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa!
Comment vous sentez-vous lorsque quelqu'un vous dit « tu es un handicapé » ?
Alors juste une petite chose, parce que là on a une chanson portugaise, alors mes salutations à Rémi en passant, il devait être avec nous, mais apparemment la pizza tueuse a fait qu'il n'a pas pu être avec nous. Au cas où il écoute l'émission, je salue au travers de cette chanson portugaise. Il comprendra pourquoi, très bien. Alors maintenant, de nouveau, c'est toujours cette histoire de regard, hein, ça vous pose un problème. Hein. Mais je crois que les gens, ils ont le droit de se poser des questions. Pourquoi est-ce que t'es handicapé ? Je vais vous raconter une autre histoire qui est super drôle, qui m'est arrivée, je me rappelle plus si c'était juste avant que vous veniez me voir ou juste après que vous veniez me voir pour qu'on prépare cette émission. Ça se passait au manoir de Vevey, et puis je voulais sortir de l'ascenseur, puis il y avait des enfants devant la porte, puis je dis aux enfants attention, si vous enlevez pas, je vais vous écraser. Puis il y a une petite fille, elle devait avoir quoi, 6 ans, 7 ans, comme ça, puis elle m'a fait « T'es handicapé, toi ?» Puis moi, au lieu de me vexer, parce que j'aurais très bien pu, vous voyez, hein, un enfant qui me dit « t'es handicapé, toi, moi je connais des handicapés, je serais vexé. » Puis moi je lui réponds « oui, moi je suis handicapé. Bah, avec ma maman, on s'est mis sur une place handicapée, même qu'on n'avait pas le droit. » La maman qui passait par là est devenue rouge, verte, jaune, de toutes les couleurs, elle savait plus où se mettre. Donc, si je m'étais vexé et que j'avais mal répondu à la petite ou pas répondu du tout, ben, la maman, elle aurait pas eu droit à son cours de civisme. Il faut pas se mettre sur les places handicapées si on n'est pas avec un handicapé. Donc, de nouveau, c'est que les gens posent une question sur mon handicap. Je suis handicapé, je vais quand même pas cacher mon handicap. Je dois en avoir honte, je dois avoir honte. Comme vous devez avoir honte d'avoir des difficultés scolaires, ça vient d'où ça? C'est qui a décrété Ching-ching. Ayez honte! Ne revendiquez pas ce que vous êtes! Non, mais ça suffit, quoi! Stop! Mais pour ça, il faut accepter que les autres nous posent des questions, parce que sinon, c'est clair que si on dit « acceptez-moi, mais ne posez surtout aucune question, hein !» Vous devez m'accepter, mais posez aucune question! Je crois pas que ça joue dans la société. C'est pas possible. Donc, on accepte les questions, mais après, on peut exiger le respect.
Comment arrivez-vous à travailler avec les autres en étant handicapé?
Alors, c'est une excellente question de nouveau. Ils ont des très bonnes questions, ces élèves, quand même. Meilleur que les pros de la radio. Faudrait leur donner des cours à ceux-là. Alors, écoute, en passant, simplement, premièrement, j'ai droit, suivant où je vais, à faire adapter les lieux s'il y a des difficultés. J'ai connu ça, j'ai fait des demandes à l'assurance invalidité pour un premier stage que j'ai fait pour avoir un lift d'escalier, des choses comme ça. Bon, ça s'est pas fait à cause du propriétaire, je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, c'est juste pour dire que je peux demander à l'assurance invalidité de me fournir le matériel. Et puis autrement, ben voilà, vous, par exemple, maintenant je me suis mis à mon compte en tant que psychologue chez moi, c'est mis dans, parce qu'en tant que psychologue, j'ai le droit de faire de la publicité. Si j'étais psychothérapeute, je pourrais pas. Puis bon, là, en l'occurrence, j'en fais. Et je mets dans ma publicité que je suis handicapé. Les gens sont prévenus d'avance. Ils savent du coup où ils vont plus ou moins mettre les pieds. Et puis, ma foi, il y a des gens, disons, qui s'imaginent peut-être quelque chose, puis quand ils me voient, ils se disent « Oh punaise, il est dans une grosse chaise, ça m'évoque des trucs pénibles. » Ils ont le droit de me dire « Écoutez, monsieur, je suis désolé, moi, je pensais que je serais capable d'être votre client, puis mais tout compte fait, ça m'évoque des trucs trop pénibles pour moi, je peux pas. » Et puis, bah ça, c'est à moi de l'accepter, quoi. C'est son droit, quoi. Il vit ce qu'il vit. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, vont dire, ah, oh, c'est super, lui, il va me comprendre. Et puis, ils vont peut-être être déçus, comme ils vont peut-être être très contents, parce qu'ils vont avoir l'impression qu'on va mieux se comprendre. Donc, de nouveau, c'est le même truc, au fond. C'est être soi-même, sincère. Et je pense que là aussi, ça doit se passer pas trop mal. Dans le respect de l'autre, toujours. Parce que l'autre, il a le droit de se poser des questions, il a le droit de ne pas être à l'aise. Au début, quand on rencontre des collègues, c'est pas toujours évident pour eux, ils se posent des questions, ben, il faut répondre à leurs questions très sincèrement, ils ont le droit de se poser des questions. Parce que vous débarquez dans leur univers. Vous savez, quand vous rentrez dans une entreprise, c'est comme dans la vie. Vous rentrez dans le monde des autres les premiers jours. Puis peut-être qu'ils se posent des questions à votre sujet. Ils ne peuvent pas vous poser toutes les questions qu'ils veulent, on est bien d'accord. Ils vont pas comme. Si une collègue commence à vous dire alors, t'as un petit ami ou une petite amie, vous n'allez pas forcément lui répondre, on est bien d'accord. Mais en même temps, ah tiens, tu viens de telle école, de telle classe, t'as eu des difficultés, qu'est-ce que t'as eu comme difficulté? C'est son droit d'un peu de connaître vos difficultés. En gros, vous lui expliquez dans les lignes ce que vous voulez, mais c'est son droit de vous poser ce genre de questions, parce que peut-être ça va ensuite l'aider à vous aider, par exemple. Donc, de nouveau, c'est la manière dont vous vivez le truc qui va faire comment les gens vont réagir et comment vous allez le gérer.
Voici un peu de coup de roue.
Comment vous vous entendez avec vos parents?
Alors, ben, je dirais que globalement, je m'entends très bien avec mes parents aujourd'hui. Heureusement que j'ai eu une mère je profite, elle n'est pas là, qui a été extraordinaire dans le sens où, ben, à l'époque, pendant plus d'une année, quand je suis né, on lui a rien dit, elle n'a rien su. Elle s'est rendue compte d'elle-même, mais on ne lui a pas expliqué la gravité des choses. Puis quand on l'a expliqué, Donc on parle ça il y a plus de... Il y a à peu près 37 ans en arrière. Hein. Faut vraiment... C'est quand même assez vieux. Ben on l'a engueulé plutôt que de l'encourager. On lui dit, mais enfin, vous vous rendez pas compte, on est un handicapé. Puis après, elle m'a retiré quand j'avais 4 ans de l'institution où j'étais contre l'avis des soi-disant spécialistes qui n'en étaient pas, notamment une psychologue, comme quoi hein, la vie est drôle. Et puis elle m'a mis en école, elle a décidé de me mettre en école privée. Mon père a été d'accord de payer, ce qui est quand même pas une petite chose, parce qu'à l'époque on n'était pas sûr que j'allais faire des études. Donc je dirais heureusement que j'ai eu les parents que j'ai eus. Maintenant c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas dit quand on a préparé l'émission, puis je profite de le dire, c'est que ça n'a pas toujours été évident, notamment avec mon papa parce qu'il travaillait beaucoup. Et puis donc, quand j'avais 15-16 ans, j'aurais voulu qu'il soit plus présent pour moi à la maison. Et puis, il n'a pas été là. Puis, il y a eu des moments de crise. J'en venais à dire que si j'avais pas de papa, c'était pareil. Ce qui n'était pas tout faux, hein, à l'époque. Et puis, ben, après, on s'est retrouvés, on s'est un peu expliqué, réconcilié, si je puis m'exprimer ainsi. Mais ça n'a rien à voir avec mon handicap, par contre. Parce que, on a des fois un peu tendance de se dire, oh, mais si avec mon papa ou ma maman c'est dur, c'est forcément toujours lié à mes difficultés. Ben, enfin, ou à ce que je suis moi. Or, en l'occurrence, c'est pas forcément le cas. Mon père, par exemple, ben, il avait son propre vécu de jeune homme, d'adolescent, d'enfant, que moi je connaissais mal à l'époque, et je pouvais pas m'imaginer pourquoi on avait de la peine à communiquer entre nous. Maintenant, je le comprends beaucoup mieux. Mais c'était plus lié à lui, au fond, qu'à qui moi j'étais. C'était son problème à lui qu'il avait de la peine à résoudre plutôt que moi qui lui posais un problème en soi. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, moi je me souviens quand j'avais votre âge, ah oh, mais punaise, il m'aime pas, qu'est-ce que j'ai foutu, qu'est-ce que j'ai fait? Puis en l'occurrence, c'était pas forcément moi dans l'histoire.
Comment ont-ils réagi lorsqu'ils ont su pour votre handicap?
Alors, ma maman, quand on lui a annoncé, donc faut aussi imaginer une année après. Donc, comme je vous ai dit, elle s'est fait presque engueuler par le premier médecin. Puis mon père, justement, face à ça, désemparée, comme beaucoup de parents, il l'a engueulée elle aussi. Au lieu d'aller engueuler le médecin, ben il a engueulé ma maman. Et puis il s'est mis en colère et tout ça. Et puis, oh, je crois cette connerie, machin. Bon, voilà. Et puis ma maman, ben, sur le moment, forcément, elle s'est mise à pleurer. Puis elle raconte toujours qu'elle était au milieu des escaliers. Puis elle a dit, de toute façon, je m'en fous, un jour ou l'autre, tu marcheras ou tu t'en sortiras. C'était plutôt la deuxième réponse qui allait être valable, parce que sur le moment, je ne pense pas qu'elle s'est rendue compte que je ne marcherais jamais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a tout de suite pris le dessus, beaucoup plus rapidement que mon papa. Mon papa, ça lui a pris plus de temps. C'est un mec, quoi. Les filles disent toujours qu'on est plus lent. Voilà, mais après, alors par contre, ils sont battus, quoi. Parce que après, ben, soit on déprime, soit on se bat. Et puis ben, mes parents, ils ont très vite arrêté de déprimer, puis ils sont battus avec moi. Puis ils ont eu de la chance, c'est que moi je les ai suivis dans leur combat, parce que j'aurais très bien pu dire qu'est-ce qu'on en a à foutre, je laisse tout tomber, malgré toute leur bonne volonté, hein, sinon on n'y met pas du nôtre, ben ils peuvent pas. Puis en même temps, nous, on ne doit pas toujours compter sur eux, parce que moi j'ai bon ben. J'ai eu de la chance d'avoir fait des parents qui m'aident, mais c'est pas moi. Je connais d'autres personnes handicapées ou en difficulté scolaire qui n'ont pas des parents qui peuvent les aider. Et puis ils doivent plus compter sur eux-mêmes. Alors, je sais que c'est pas politiquement correct de dire ça parce que je connais des profs et des gens de la protection de la jeunesse qui diraient, oui, mais c'est le rôle des parents. Oui, mais quand les parents peuvent pas, ben c'est pas mauvais de dire aux jeunes, ben oui, il faut mieux. Effectivement, ça va être le choc de ta vie, mais il faudra peut-être mûrir plus vite que les autres. Je trouve que c'est plus sincère que d'aller culpabiliser systématiquement les parents qui peuvent pas. C'est plus sincère de dire aux jeunes, bah oui, c'est ton rôle d'aider tes parents. Je pense notamment, vous savez, hein, je vais vous donner deux exemples, très rapidement. L'exemple d'un parent handicapé, si j'avais des enfants moi, je serais bien obligé de demander à mon petit gamin d'aller chercher le jouet qu'il a foutu sous le meuble. Je peux pas aller le chercher. Donc je vais le responsabiliser plus vite. S'il a 3-4 ans, je vais le responsabiliser plus vite qu'un autre enfant de 3-4 ans. J'ai pas le choix. Deuxième exemple, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont des origines étrangères. Ben, je pense que certains d'entre vous, vos parents, parlent mal français. Ben, il n'y a pas le choix par moment d'expliquer les textes administratifs en français ou de leur expliquer ce qui se passe. Hein, c'est bien sûr qu'ils sont supposés et puis que dès qu'ils le peuvent, il faut qu'ils le fassent. Mais en même temps, il y a des moments où ils n'ont pas le choix et où on est obligé de grandir plus vite que les autres. Et pas dire ça et pas admettre ça, je trouve que c'est... Voilà, nouveau, c'est pas être honnête. Il faut être honnête dans la vie et dire les réalités comme elles sont. Il y a des moments où on n'a pas le choix. C'est ma peau d'abord, celle des autres ensuite, quoi. En gros.
À votre avis, est-ce que c'est plus difficile d'avoir un handicapé au corps plutôt qu'avec son cerveau?
Alors, je pose la question. Pour traduire pour ceux qui auraient mal compris, je ne dis pas qu'elle est mal posée, mais peut-être que certains diraient ils la comprennent mal, c'est la différence entre avoir un handicap physique, hein, pas pouvoir marcher, ce genre de choses, et un handicap psychique, comme certains qui ont des problèmes à faire dans votre classe, à faire des calculs, ou font une dépression, ou des choses comme ça. Alors moi j'ai envie de répondre, qu'elle n'en a à foutre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'en a à foutre? C'est-à-dire que, peu importe qu'elle soit... Moi, en plus, j'ai la chance parce que j'ai la double casquette d'être psychologue et d'avoir un handicap physique. Donc, je peux vraiment répondre aux gens, mais la différence, on s'en tape. Il n'y a pas un handicap qui est plus, entre guillemets, grave qu'un autre. Bien sûr, vous, la difficulté par rapport au grand public, c'est que ça se voit moins vite. Pour ceux qui ont des difficultés scolaires, ça se voit moins vite. Parce qu'il ressemble à n'importe quelle autre personne dans la rue, tandis que moi, ben, on voit mon fauteuil. Donc, c'est mis différent d'entrée de jeu. Et puis, c'est peut-être plus facile à faire accepter aux autres que je suis différent, parce que ça se voit. Mais après, au-delà de ça, si nous qui sommes au fond dans le même bateau, j'ai envie de dire, on commence à se poser la question, oui, mais c'est plus grave pour qui ? On rentre dans leur jeu. Ben ça, c'est le jeu des gens qui veulent pas nous accepter tel qu'on est, puis qui voudraient nous mettre à part dans la société. Parce qu'il ne faut pas croire, pas tout le monde nous aime. Et si on a décidé de se battre, faut surtout pas rentrer dans ce jeu-là, de dire c'est quoi le plus, c'est quoi le pire des deux. Pour moi, il n'y a pas pire. Moi, j'aurais pas envie d'être déprimé, vous voyez, mais pas du tout. Et puis je pense que le déprimé, quand il me voit, il me dit souvent « Oh ben dis donc, ça doit être dur pour vous !» Puis justement, moi ce que je lui renvoie, je lui dis « Bah oui, ben moi, j'ai envie de dire que c'est dur pour vous, parce que moi j'aimerais pas être à votre place. » Donc résultat des courses, ça peut être dur par moment pour tout le monde. Pour toutes les personnes qui ont des vraies difficultés dans la vie. Donc arrêtons de se dire « C'est pire pour qui ?» et battons-nous tous ensemble. Moi, pour moi, vous êtes des frères de combat pour qu'on nous donne une place dans la société.
Voici Castada.
I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't. Every time
Your arms are my castle, your heart is my sky. They wipe away tears that I cry. The good and the bad times, we've been through them all. You make me rise when I fall. 'Cause every time we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last, need you by my side. 'Cause every time we touch, I feel the static.
N'avez-vous pas la haine de n'être pas comme les autres?
Alors, la haine, c'est, je dirais que c'est peut-être un mot excessif, mais parfois je me mets en colère. Je me mets en colère contre mon corps, parce que, ben, pour vous dire, ça m'arrive de tomber de mon fauteuil, je suis seul chez moi, ou des fois je réponds au téléphone, puis je glisse, puis je tombe mon fauteuil, puis après il faut se remettre sur le fauteuil. Puis je suis tout seul. Puis ben, mes bras et mes jambes, ils me répondent pas comme je voudrais. Puis au lieu de mettre 2 minutes, j'en mets 15. Ben, il y a des moments où là, franchement, j'ai la colère contre ce corps qui fonctionne mal. Pourtant, je devrais avoir l'habitude. Ben non. Ou des fois, je fatigue plus vite. Puis j'ai beaucoup de boulot. Et puis je me dis, il faudrait que j'arrive à finir ce boulot. Puis bon. J'ai appris à me calmer, à accepter le fait qu'il faille que je me repose de temps en temps. Mais c'est vrai que sur le moment, ça m'est mieux arrivé, comme tout être humain, de me mettre en colère, comme ça m'est mieux arrivé de me mettre en colère contre les couillons qui se mettent sur les places handicap, ou les autres couillons, pour pas employer d'autres termes, qui pensent que je, par exemple, je suis bénévole à un festival et je sais qu'il y a des gens qui au départ ben pensaient que j'étais pas capable d'eux. Bon, maintenant ils m'aiment, mais sur le moment je me suis dit que tiens, il y a des gens qui m'accepteront pas forcément. Pas évident d'accepter sur le moment. Ça, tiens, ils vont peut-être le découvrir, je ne l'ai jamais dit. Mais, et puis, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, ceux qui doutaient de moi. Mais après, ben, maintenant, tout le monde m'aime, tout le monde trouve que je fais du super boulot. Donc, ça fermait la bouche à ceux qui ne croyaient pas en moi. Et je remercie d'ailleurs le directeur de ce festival qui vient de se conclure, puis à l'heure du Québec, qui s'appelle Rico Perriard et qui, lui, m'a imposé à ceux qui pensaient que j'étais pas capable. Comme quoi, il y a des gens qui croient en nous.
Avez-vous déjà eu des envies de suicide?
Oui, à cause d'une déception amoureuse. Pas du tout lié au fait que j'étais handicapé, mais oui, j'ai eu des envies de suicide. Ça m'est déjà arrivé. Vous voyez, on peut être psychologue et avoir des envies de suicide. Ça ne veut pas dire passer à l'acte, hein, les envies de suicide. On peut avoir des envies de suicide, puis avoir la petite flamme qui fait que on va pas tenter de se suicider. Et puis l'autre chose qu'on doit aussi apprendre en tant que psychologue, et je profite de le dire, hein, parce que il y a beaucoup de gens qui croient que, c'est qu'on doit accepter que ben des gens, malgré toute leur aide qu'on peut leur apporter, ils décident de mettre fin à leur jour. Et on doit respecter ce choix. On doit accepter que nous, on ne peut pas prendre la décision de vivre à leur place, et que pour certaines personnes, c'est trop dur de vivre, même si, voyez, moi j'ai eu envie de me suicider, mais je ne me suis pas suicidé, parce que l'envie de me battre a toujours dépassé l'envie de mettre fin à mes jours. Que ce soit pour une déception amoureuse, ou par rapport à mon handicap, on aurait pu imaginer, tiens, j'ai pas de boulot, j'ai envie de me suicider, c'est lié à mon handicap, j'ai envie de me suicider. Non, en l'occurrence, c'était à cause d'une fille. Mon Dieu, les femmes!
Merci à Monsieur Godin d'avoir participé à notre émission.
C'est déjà fini ?
Et bon week-end à tous.